Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. Vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée, avec à la une ce soir le demi-tour forcé d'Édouard Philippe sur l'expérimentation des 80 km/h. Le Premier ministre va redonner le volant aux régions en suivant les conseils GPS du président Macron. Les soldes, ça a eu payé, mais ça ne rapporte plus comme avant, visiblement. D'où l'idée de les arrêter dès maintenant. Dossier complet dans un instant dans RTL Grand Soir. Stop ou encore pour la star du PSG cette saison, victime d'une fracture qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'au printemps. Neymar inquiète le PSG comme tout un peuple brésilien. Le docteur Simès nous donnera son avis à la fin de ce journal. La météo, ça se gâte à nouveau et ça arrive par l'ouest du pays. À la fin de votre journal, le portrait du soir signé Isabelle Choquet, sans oublier à 22h20 votre magazine de l'écho, puis 22h25, le choix d'RTL Grand Soir se portera tout à l'heure sur le retour en France d'un illusionniste de génie, spécialiste de la téléportation, le Canadien Luc Langevin, avant comme chaque soir de retrouver sur notre bonne zone, en tout cas à nous RTL à 22h30, Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première Radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
2018 a été l'année la moins meurtrière de l'histoire sur nos routes, au moment où la question de l'expérimentation des 80 km/h sur les nationales revient sur le devant de la scène, de la contestation bien sûr chez nombre de gilets jaunes. Précision d'importance, depuis juillet dernier, la mise en place de cette réglementation, ce sont 116 vies qui auraient été ainsi sauvées. L'an dernier, au total, ce sont donc 3259 personnes qui ont trouvé la mort en métropole, soit 9 de moins que le précédent record qui datait de 2013. Oui mais voilà, Emmanuel Macron appelle à des aménagements secteur par secteur, région par région, et met ainsi la pression Vincent de Rosier sur son Premier ministre.
Oui, et ce n'est plus un secret pour personne. Les 80 km/h, c'est la mesure d'Édouard Philippe, celle qui a contribué à précipiter le président dans la crise. Emmanuel Macron est contre, il l'a suffisamment dit, confié ou fait comprendre lors des débats, même si Édouard Philippe ce matin a tenté de minimiser le désaccord entre eux.
Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. Toutes les décisions que je prends, elles font l'objet de discussions intenses avec le président de la République.
Alors, depuis l'Égypte, Emmanuel Macron a tenté lui aussi de déminer. Mais sur le fond, le désaccord est bien là. Le président est prêt à faire des aménagements sur certaines routes, ce qu'il appelle du pragmatisme local. Édouard Philippe tient bon, il n'en veut pas et il l'a bien fait comprendre ce matin.
Il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Il serait inouï de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire augmenter le nombre de morts sur la route. Je ne voudrais pas que des mesures qui seraient prises viennent à nouveau faire augmenter le nombre d'accidents sur les routes, le nombre de blessés.
Que chacun prenne ses responsabilités, ajoute Édouard Philippe. Autrement dit, si Emmanuel Macron veut laisser les présidents de conseils départementaux revenir aux 90 km/h sur certaines routes, très bien. Mais si c'est le cas, le Premier ministre n'assumera pas une hausse de la mortalité sur les routes à la place du chef de l'État.
Oui, Vincent de Rosier, service politique d'RTL. Invité d'RTL Soir à 18h, Emmanuel Barbe a annoncé que si les radars n'avaient pas été autant dégradés, 60 vies auraient pu être épargnées en plus. En visite en Égypte, après avoir évoqué la question des droits de l'homme aux côtés du président Sissi, Emmanuel Macron a répondu dans la foulée à une interrogation sur les risques des dernières semaines de contestation, notamment sur le comportement violent des policiers.
Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux n'a été la victime des forces de l'ordre. Je le dis bien parce que, compte tenu de la nature de cette crise, de ce que la France vit depuis plusieurs semaines, c'est inédit. Et je veux ici rendre hommage au professionnalisme des forces de l'ordre dans ce contexte.
Emmanuel Macron avec Christophe de Groix, envoyé spécial auprès du président. Pendant qu'en France, la police des polices enquête sur les raisons de la blessure à l'œil d'un manifestant, plusieurs recours ont été déposés aujourd'hui pour demander la suspension de l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Et puis dans 48 heures, le boxeur cogneur de l'acte 8, ancien champion de France, saura s'il peut sortir ou non de prison avant d'être jugé le 13 février prochain. RTL Grand Soir, 22h04. Et si on arrêtait les soldes? C'est en tout cas l'envie de certains professionnels du commerce qui ont vu Armel Lévy, leurs chiffres continuent de baisser après un mois de décembre bien perturbé, on le sait, par le mouvement citoyen.
Oui, avec les blocages des gilets jaunes, les marchands de vêtements indépendants accusent une perte de 20% de leur chiffre d'affaires en décembre et cela continue malgré les soldes, avec une chute encore de 10% de fréquentation et de chiffre d'affaires en janvier. Éric Merth, le président de la Fédération nationale de l'habillement, fait donc une proposition pour sortir de la crise.
Tous les acteurs sont passés dans le rouge et force est de constater que les soldes ne marchent pour personne. Et pourquoi pas prendre le
contre-pied de tout cela et de ne plus faire de soldes. Est-ce que ça serait si choquant que ça? Quand on voit effectivement que ces soldes n'ont plus d'attrait, que ce rite social qui était important, qui était un événement majeur, visiblement n'a plus aucune importance.
Mais la fin des soldes signerait-elle la fin des bonnes affaires pour les clients?
Le client ne sera pas perdant parce qu'aujourd'hui, il n'est pas gagnant. C'est bien ça le problème. C'est qu'à travers toutes ces promotions qui s'enchaînent du 1er janvier au 31 décembre, est-ce que le client croit une seule seconde qu'il est gagnant? Donc le client ne sera pas perdant avec des prix sincères, honnêtes, toute l'année.
Les grandes chaînes et grands magasins pourraient continuer les soldes, mais les indépendants, eux, pourraient donc décider d'arrêter de jouer le jeu.
Merci beaucoup Armelle Lévite pour toutes ces précisions, services économie et sociale d'RTL. Décision très attendue aujourd'hui par les employés de l'usine Ford de Blanquefort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été rejeté par l'administration, repoussant ainsi la perspective de la fermeture de ce site automobile qui emploie tout de même 850 personnes. Cette décision a en tout cas pour objectif de sécuriser l'ensemble des parties en pointant la non-conformité de la procédure, donnant ainsi un petit répit au projet de rachat de l'entreprise par le groupe Punch. Et puis en pleine négociation sur l'assurance chômage, le MEDEF, le syndicat du patronat, lui a décidé de se retirer ce midi de la table des négociations. Le désaccord porte là sur le bonus-malus en matière de contrat court.
RTL Grand Soir
avec Christophe Paco.
Évasion violente, spectaculaire et heureusement sans blessés graves ce matin dans les Bouches-du-Rhône, devant le palais de justice de Tarascon. Le commando n'a pas hésité à mitrailler le fourgon à l'aide d'un fusil d'assaut. Portrait d'un évadé bien épaulé, Étienne Bauduche.
Eh bien écoutez, il s'agit d'un homme de 27 ans, originaire de Nîmes, dans le Gard, déjà connu, avec 14 mentions sur son casier judiciaire. Condamné pour des faits somme toute assez bénins, en particulier dans les stupéfiants, mais depuis quelque temps, le malfaiteur semblait monter en puissance avec 4 récentes mises en examen dans des affaires de vol avec violence et en bande organisée. Une à Tarascon, une autre à Aix-en-Provence et deux à Nîmes. L'homme était d'ailleurs écroué en détention préventive depuis septembre dernier. Un homme qui n'hésitait donc pas à voyager, entre guillemets, entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, et il était sans doute en train de se faire un nom, car on ne monte pas une telle équipe pour du menu fretin, explique le procureur de Tarascon, Patrick Desjardins.
Il y avait de toute évidence une détermination qui était absolue d'aller jusqu'au bout pour faire libérer leur comparse. Quelqu'un qui est capable effectivement de mobiliser une équipe dont un des membres est équipé d'un fusil d'assaut, on est effectivement sur un profil dans le haut du spectre de la délinquance.
Car on est tout de même passé à côté d'un drame. Ce matin, les malfaiteurs n'ont pas hésité à frapper violemment deux agents et à tirer à l'arme automatique sur le véhicule de la pénitentiaire. L'impact d'un tir est parfaitement visible sur le pare-brise à hauteur d'homme.
Étienne Baudu, RTL, Marseille. Incendie la nuit dernière chez nos confrères de France Bleu Isère. La présidente de Radio France dénonce un acte criminel et odieux. Aucune menace, aucune revendication n'a pour l'instant été exprimée. Pas moins de 6 morts, probablement de la grippe, dans une maison de retraite de la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. Des décès en série qui suscitent évidemment beaucoup d'interrogations encore aujourd'hui. 3 résidents étaient vaccinés. Odile Pouget, contrairement aux toutes premières informations, l'un des 2 soignants décédés au moins n'était pas vacciné.
Oui, c'est à présent une certitude. En revanche, pour le second, on ne sait pas. Et les investigations se poursuivent, bien sûr, auprès de son médecin traitant, notamment. Recherche qui continue également pour vérifier que c'est bien un syndrome grippal qui est en cause. Les 2 soignants en présentaient tous les symptômes, ainsi que le dernier résident, mort samedi matin au CHU d'Orléans. Pour les 3 autres victimes, qui avaient toutes plus de 90 ans et qui souffraient de nombreuses pathologies, ce n'est pas encore formellement établi. Ce soir, l'Agence régionale de santé affirme qu'il n'y a pas de nouveaux cas. Selon la directrice de l'établissement, des mesures de restriction restent en vigueur jusqu'à jeudi. Pas de visite des familles et port d'un masque pour tout le monde. Dans cet EHPAD, 96% des pensionnaires sont vaccinés. Pour le personnel, on ne sait pas puisque la vaccination est simplement recommandée. Mais si l'on regarde les enquêtes, cela devrait tourner autour de 30%. Alors qu'on sait qu'un bon taux de vaccination permet de freiner une épidémie et de protéger les plus fragiles.
Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. L'homophobie, ça suffit. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé aujourd'hui une grande campagne chez les jeunes pour lutter contre la recrudescence des actes homophobes. Près d'un élève LGBT sur 5 reconnaît, affirme même avoir été insulté l'an dernier. Reportage ce soir de Marie Guerrier, ce lundi, dans un lycée professionnel du 19e arrondissement de la capitale.
Moqueries, insultes, discriminations, agressions, ça suffit. L'affiche sera placardée dans tous les lycées et collèges. Djibril, 19 ans, reprend le slogan à son compte.
Ça suffit. Briser le silence, parce que c'est un phénomène qui est très présent mais qui est quand même tabou.
Il porte les cheveux longs, des ongles vernis rouges. L'homophobie, il connaît depuis longtemps.
Même avant le collège, parce que j'avais des manières, etc. Et après, ça s'est accentué au fil des années, collège, lycée.
Aujourd'hui, Djibril a un message à faire passer.
À toutes les personnes qui sont différentes, de rester comme elles sont, de pas changer pour qui que ce soit. J'ai le droit d'aimer qui j'aime, penser comme je veux, de m'habiller comme je veux. On a tous les mêmes droits.
Oui, tous égaux, se sentir libre d'être soi-même et bannir toute insulte, dit la nouvelle campagne. Peter, 18 ans, bisexuel, le raconte. Sale PD, c'est devenu tellement banal.
Tu fais mal la vaisselle, t'es un PD, je sais pas, tu fais mal ton lit, voilà. Maintenant, c'est devenu courant, en fait. Ça suffit, ouais, ça suffit. On en a marre de tous ces préjugés.
L'association SOS Homophobie Partenaire de l'Éducation nationale intervient dans les collèges et lycées. Gaëlle Perrin rencontre tous les jours des élèves.
Nous, on lance des questions. Qu'est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que vous connaissez le mot lesbienne? Et donc, notre but, c'est d'essayer de déconstruire tous les stéréotypes.
Et la nouvelle campagne incite les jeunes à s'engager pour marginaliser le discours homophobe.
Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. À l'étranger, le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a annoncé tout à l'heure prendre le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger pour éviter que le président élu, Nicolas Maduro, ne les dilapide au cas où il quitterait le pouvoir. Et à l'instant, Washington appelle l'armée à accepter le transfert pacifique du pouvoir donc vers Juan Guaido. On va parler de l'inquiétude autour du pied de Neymar. Opération ou pas, le docteur Michel Simès sera avec nous dans un instant. Quoi qu'il en soit, avec la confirmation de cette fracture du pied droit, la star brésilienne va donc manquer le 8e de finale face à Manchester en Ligue des Champions. Et puis, nouveau coup dur pour l'OM, côté supporters comme côté motivation des joueurs, puisque la Ligue de football professionnelle vient de décider le huis clos total du Vélodrome à titre conservatoire suite aux événements de vendredi dernier avec un match arrêté une bonne demi-heure pour cause notamment de jets de pétards sur la pelouse. Réaction ce soir de supporters marseillais recueillis par Hugo Hamelin.
Eh ben c'est pas normal. Il y a qu'à attraper le mec qui a jeté le pétard, et puis on le vire à lui du Vélodrome à vie. Ouais, il y a 70 000 personnes qui sont punies par rapport à un seul bonhomme.
Ben je trouve que comme d'habitude, à l'OM on est jugé différemment des autres clubs en France. Il y a deux poids deux mesures.
Ça va pas faciliter le rapport entre la direction et les supporters. Ça c'est sûr, qui était déjà bien tendu. Dans pas longtemps, on aura plus les mêmes têtes au stade, quoi. De toute façon, ils veulent un stade avec Mickey et Donald, et je pense qu'on va perdre un peu cette ferveur, quoi. Mais aussi, c'est la faute aussi aux abrutis qui n'ont pas qu'à jeter des pétards. Franchement, il y a autre chose à faire, en fait.
Bah, pour moi, tout ce qui enfreint la loi, pour moi, c'est une honte.
Reportage Hugo Hamelin sur la Canebière. Sur le terrain en Ligue 2 ce soir, match en cours, 3 mène 1-0 face à Lens. Victoire importante en tête du classement du Paris Football Club, 1-0 contre Béziers, match nul 0-0 entre Clermont et Le Havre. La météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir à tous, les conditions météo vont fortement se dégrader à partir de demain après-midi sur la moitié ouest du pays avec une dépression très creuse qui va circuler sur le proche Atlantique. Cette dépression nommée Gabriel va déjà donner de la pluie dès demain matin sur toute la côte atlantique, des pluies qui seront soutenues dans l'après-midi et le vent qui va se renforcer pour atteindre les 130 km/h en rafale sur les côtes atlantiques et 100 km/h dans les terres. Et puis les précipitations qui, un petit peu plus tard dans la journée, en fin d'après-midi, se feront sous forme de neige sur le nord-ouest du pays et au nord de la Loire et localement des chutes de neige qui seront assez conséquentes. Alors que sur la moitié est du pays, demain le temps sera calme avec un ciel plus lumineux entre l'Alsace, les Alpes et les côtes méditerranéennes. Les températures entre moins 5 et 7 degrés demain matin et un 13 degrés dans l'après-midi, 1 degré sur le plateau de Langres. 3 degrés à Lille, 4 à Paris, 8 à Brest et 13 degrés à Nice.